Vous écoutez
Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. On vit une époque épique, des moments historiques, disons-le. Et c'est pourquoi on va parler un peu d'actualité. Avec moi, le dépassé Stéphane.
Oh bah oui, toujours.
Le futuriste Maxime.
C'est vrai.
Bonjour Elodie, la revenante.
Bonjour Tom. Bonjour tout le monde.
Et l'actuel Léo.
Bonsoir.
Qui est journaliste, lui.
Bah, on est deux.
On parle d'actualité car on ne vous l'apprend pas. Certaines séries vont intégrer le coronavirus dans leurs intrigues. On pense évidemment aux séries médicales, mais pas que. Il y a par exemple This Is Us ou encore peut-être All Rise qui va en reparler. Alors l'élection de Trump, les mouvements MeToo, Black Lives Matter, évidemment des événements plus lointains comme les attentats du 11 septembre sont autant de gros sujets d'actualité qui ont plus ou moins influencé les séries. Alors commençons par le présent. Par le coronavirus, hein, ce virus qui est parmi nous maintenant depuis quelques mois. Évidemment, on pense tout de suite aux séries médicales, Stéphane.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, on le sait, elles l'ont dit depuis 2-3 mois, le sujet sera forcément intégré, ils ne pouvaient pas ne pas le traiter, quoi. Surtout que, vu la situation, comment ça s'est passé à New York et qu'il y a des séries médicales comme New Amsterdam qui se passent à New York même, ça aurait été dommage de passer à côté du sujet et de faire comme si de rien n'était. Donc non, c'est devenu incontournable, même Grey's Anatomy va s'y mettre. Donc les séries médicales de la rentrée vont avoir un gros morceau à traiter. Et moi, ça m'excite énormément parce que je sais que ça va forcément être mal fait par certaines, ça va être forcément très bien fait par New Amsterdam, sans vouloir la citer. Et non, ça va être passionnant à regarder, quoi, de voir comment ils se débrouillent avec ce sujet-là, alors qu'on ne sait pas encore forcément tout. Est-ce qu'ils vont parler de ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont parler de comment ça va se passer? Comment ça va être fait, quoi? Est-ce qu'ils, déjà, en question pratique, est-ce qu'ils vont porter un masque devant nos écrans, quoi? Déjà, on ne sait pas. Donc déjà, rien que ça, c'est assez passionnant à savoir et il nous tarde d'avoir même des débriefs sur comment ça s'est fait dans la writer's room, comment ça s'est passé sur les tournages. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Ça va être passionnant pour les gens qui aiment suivre les coulisses des séries.
Tu vois, moi, celle qui m'intéresse le plus par rapport à ça, c'est j'ai vu que Hippocrate va s'adresser au coronavirus. Et j'ai hâte de voir comment ça va être fait vu la première saison qu'ils ont faite sur le système médical français. Enfin là, je m'avance un peu par rapport au domaine d'expertise d'Elodie, mais Hippocrate, ça m'intéresse vraiment ce qu'ils vont faire. Alors que les autres, bon, New Amsterdam, je la suis pas. Désolé, Stéphane.
Quelle honte.
Désolé.
Mais surtout que ça va surtout mettre aussi en lumière deux politiques aussi différentes.
Exactement.
Au niveau politique américaine et française, c'est quand même deux mondes différents. Donc, c'est vrai qu'au niveau de séries médicales, ça peut aussi être encore une fois une attaque sur tout le système Trump.
Ah ben, clairement. Et celle qui risque d'être la plus coriace, ça va être The Resident, qui est déjà en train de défoncer tout le monde et qui défend déjà le système américain sous Trump. Enfin, c'est shooté aux stéroïdes. Et là, ça va être encore plus agressif et encore plus dingue. Et celle-là aussi, je l'avais oublié, mais ça risque d'être passionnant à regarder, quoi. Ouais, voir ce qu'elle en dit.
The Resident est vraiment axé sur comment l'hôpital peut rapporter comme une véritable entreprise.
Ouais. Ouais, non, clairement, ouais.
Je pense qu'eux, ils seront très impactés. Après, les séries médicales en général vont traiter le sujet, que ce soit Good Doctor ou Grey's Anatomy.
J'ai un peu peur de ce que Grey's Anatomy va faire. Enfin, non pas que je n'ai pas confiance en elles. Je pense qu'ils vont être plus du côté du patient et des personnages, forcément. Mais je ne sais pas. Je commence à être un petit peu dans la religion Stéphane et Christa Verneuf, c'est le diable, donc j'ai un peu peur.
Ouais. Les premières interviews de Christa Verneuf, elle a dit on va mettre les mains dans le cambouis. Donc si elle ne traite pas du sujet en ayant dit ça, ça risque d'être une catastrophe. Et de toute façon, si toutes les autres séries médicales le font et que Grey's Anatomy ne le fait pas de manière approfondie, de manière sérieuse, elle va passer à côté de son sujet et Grey's Anatomy, on va pouvoir lui dire adieu si c'est pour continuer de nous faire du soap à la con.
mais surtout, en fait, est-ce que cette histoire de coronavirus doit être une sorte de fil rouge sur toute la saison ou vraiment quelque genre en filigrane ou quelque chose de ponctuel et ne pas faire une sorte de série très anxiogène où on parle que de ça, quoi, où toutes les séries vont se ressembler.
Le truc, c'est que maintenant, on doit apprendre à vivre avec le virus. C'est ce qu'on nous rabâche depuis 3 mois. Et le fait est que, enfin, vous avez dû avoir cette sensation aussi, mais enfin, maintenant, à chaque fois que je vois une série et que je les vois se serrer la main, j'ai envie de leur dire attention les gestes barrières. Maintenant, ça commence à. Ça commence à. Enfin, ça fait vraiment partie de nos vies. On sait qu'on doit porter un masque en toutes circonstances. En plus, en France, on a une résurgence de l'épidémie. Aux États-Unis, c'est géré n'importe comment. L'élection américaine va arriver, en plus. Donc, ça va être un sujet d'autant plus central. Voilà. Alors, après, est-ce que ça va être anxiogène forcément? Parce que bah, Hollywood a ce pouvoir et cette influence qui s'étend suffisamment loin dans le monde pour avoir cet effet anxiogène. Mais en même temps, il n'y a pas le choix. Et on parlait d'Hippocrate tout à l'heure. Je rappelle, enfin, voilà, je fais pas insulte en vous rappelant que Thomas Lilti est lui-même médecin et qu'il est allé dans les hôpitaux. Justement, il a tout plaqué pour aller aider. Pour aller aider dans les hôpitaux aussi. Donc lui, ça fait partie d'un devoir aussi. Et ce qu'on va voir, à mon sens, ça va être justement, enfin, ça paraît logique, hein, une héroïsation des soignants, comme on le fait au travers des matchs de foot, au travers des grands événements, etc., qui rendent hommage aux soignants. Et on va avoir ça à tire-larigot. Alors oui, ça va être, encore une fois, ça va être anxiogène, mais en même temps, on vit avec ça, on va vivre avec ça pendant 2 ans, au moins, enfin peut-être plus, on ne sait pas. Donc forcément, ça va faire partie du truc et on trouvera forcément d'une manière ou d'une autre que ce sera que ce sera anxiogène. Et je conclus juste en lisant ce que dit la co-créatrice de Resident, la Amy Holden Jones. Elle disait sur le long terme, malheureusement, les répercussions du Covid-19 vont se poursuivre, même une fois que nous aurons un vaccin et nous serons là pour le montrer également. Donc
Bah, la raison.
Hollywood veut même faire corps en fait avec cette actualité et du coup intégrer ça d'autant plus et aussi le mettre en scène. Ça, c'est aussi la folie des grandeurs à l'américaine, quoi.
Mais surtout que on arrive quand même en plein milieu de quelque chose, donc les séries vont devoir intégrer aussi le fait que c'est un événement qu'on est en plein dedans en fait. Donc ils vont pas
Surtout pour
pouvoir.
This Is
Oh.
Us.
Oui.
Surtout pour This Is Us, en fait, puisqu'elle nous a habitués à nous montrer plusieurs époques et que dans aucune de ces époques, il y avait le coronavirus. Donc là, comment est-ce qu'ils vont le mettre? Est-ce qu'ils vont l'intégrer à cette époque futuriste, notamment où on voit Rebecca voilà, âgée et tous les protagonistes âgés? Est-ce qu'ils vont intégrer une époque entre ce futur lointain et le présent, entre guillemets, qu'on nous montre? Comment ils vont l'intégrer? Oui, ça va être des pirouettes permanentes pour toutes les séries.
C'est là où moi j'ai un peu peur au niveau des séries médicales, enfin, et des séries françaises en général. Je parle pas des feuilletons du type Plus belle la vie ou toutes ces petites sœurs, mais par exemple Hippocrate, ils pourront pas réagir de la même manière que vont réagir The Resident, New Amsterdam ou Grey's Anatomy. Hippocrate, on sait très bien que ça va pas sortir le mois prochain. On va pas pouvoir montrer les soignants pendant qu'ils sont sur le champ de bataille, entre guillemets, à part voilà, pendant la deuxième vague. Mais voilà, donc la notion de réactivité, là, elle est plus qu'importante. Et du coup, les scénaristes, ils ont un travail, mais de dingue à faire. J'aimerais pas être en writer's room en ce moment. Je pense que.
Oui, non, mais il l'a arrêté. Il a parlé au Figaro, là, Thomas Lilti, en mai, et il avait déjà tout arrêté. Donc, ça a dû certainement reprendre au compte-goutte.
Et ils ont donné tout leur matériel aux.
Alors, le tournage, je crois, est en train de se terminer ou vient de se terminer tout juste. Et je crois qu'il y a 2 semaines, ils étaient encore en train de
Oui,
tourner.
mais non, mais c'est-à-dire est-ce qu'il a la capacité d'avoir arrêté, d'avoir changé les scénarios et d'avoir intégré cette histoire-là
Bah,
dans sa saison 2,
en
quoi,
termes
donc.
d'idées, en termes d'idées et de fond, Thomas Lilti n'en a pas besoin parce qu'il est médecin et il a été au cœur du truc. Après, comment est-ce qu'il a dû faire en termes de timing? Ça, c'est sûr que c'est certainement un peu plus compliqué. Pour The Resident, là, je vois qu'ils ont embauché 2 médecins et une infirmière, dont l'infirmière qui était volontaire pendant la pandémie pour écrire la saison 4. Donc voilà, ils font avec ce qu'ils ont, en fait. Enfin, ils se démerdent pour que les pirouettes se voient le moins possible, quoi.
On ne sait pas, c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait, mais on espère qu'ils aient fait quelque chose en rapport. Alors, est-ce que ça sera pendant le confinement, l'après-confinement? Est-ce qu'ils ne vont pas du tout en parler, hein? Ça se trouve, ils avaient déjà écrit, à mon avis, toute la saison 2 avant.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si la série, imaginons, sort en décembre ou janvier, elle, ce qu'elle aura
Ce qui
tourné en
risque d'être le
mai
cas.
sera déjà
C'est
daté, en
sûr qu'on
fait.
aimerait bien qu'ils en parlent. C'est comme dans Baron Noir, ce serait dommage, par exemple, que Baron Noir n'en parle pas non plus, mais.
Réactif
Baron
aussi, hein.
Noir, Baron Noir, c'est hyper actuel. Baron Noir, c'est très clairement ce qui se passe en ce moment, ce qui est assez terrifiant.
Oui, mais encore une fois, c'est parce qu'ils ont aussi un mode de production qui est complètement différent du nôtre et qui. Voilà, il y a plus d'épisodes, ils sont hyper. Ouais, leur mode de production leur permet d'être plus réactifs et du coup. C'est con parce que j'aimerais bien qu'Hippocrate réussisse le passage du coronavirus, mais j'ai plus confiance dans les séries américaines pour montrer ce que c'est plutôt que dans les séries françaises.
Mais non, tu mises sur la mauvaise, il faut miser sur Nina.
Enfin, pour moi, le début de l'épidémie, ça va plus être dans des séries où on mise sur l'événementiel, du type Grey's Anatomy peut très bien ouvrir sa saison sur ça, ou 911.
911, ouais.
Mais par exemple, une série comme The Resident ou New Amsterdam, que je suis moins mais que j'ai suivi de loin, auront peut-être plus la capacité à faire quelque chose sur le long terme.
De toute façon, ça dépend des timings, des tournages, de comment ils ont fait, s'ils ont redémarré immédiatement. Si, voilà, ça va. Les timings vont se voir selon les manières de faire de la série. Pour This Is Us, par exemple, encore une fois, ça va peut-être être une époque qui va être intercalée, où on va voir les débuts de l'épidémie et ensuite ils vont rajouter plus tard, dans une autre époque, ou celle la plus dans le futur, voilà, par exemple, que le fils de Toby et Kate va vivre avec le coronavirus. Je sais pas, ça va être à eux de voir. Après, il y en a d'autres. Je sais pas comment Thomas Lilty va faire dans Hippocrate. Si en effet il fait une mini-série en disant bah voilà, on fait selon le coronavirus et on dit qu'on est en mars 2020 quand ça se déclare. Et puis ensuite l'accompagnement va se faire. Bah on va voir tout simplement tout le monde masqué, à mon avis. On va voir peut-être dans les séries médicales des services de réanimation qui vont solliciter plus de médecins et plus de personnages des séries qui vont peut-être être redéployés dans d'autres services. Et puis petit à petit, selon l'état du pays aussi, parce que les États-Unis ne se font pas la même taille que la France, et là l'épidémie est quand même gérée largement différemment qu'en France. On peut critiquer en France, mais alors aux États-Unis, voilà. Et là aussi, ça va être présenté différemment. Et puis bon, et puis il y a toujours la question des moyens. Enfin, aux États-Unis, malgré tout, ils ont peut-être plus de moyens pour rendre compte un peu plus du gigantisme du truc, même si ça, c'est sûr, ça suffira pas.
D'ailleurs, j'ai une question sur This Is Us, que moi je ne suis plus depuis 2 saisons, je crois.
C'est une faute.
Désolé. Est-ce que ça va pas paraître un petit peu hors propos ou artificiel le fait d'intégrer tout ça alors qu'en fait ils ont déjà construit tellement de choses?
Ah, c'est le problème.
Je pense que ça sera le cas pour beaucoup, beaucoup de séries
Ouais.
dramatiques ou même pas que
Oui,
dramatiques.
mais
Qui vont devoir
oui, mais
intégrer ça à retardement, finalement. Parce
oui,
que.
mais pour moi, c'est moins problématique dans une série comme Grey's Anatomy où en fait la timeline est un peu plus lâche, on va dire, plutôt que dans This Is Us où, bah, comme tu disais, ils ont 3 timelines différentes. Bon, ouais, il y en a une où ça posera pas forcément de problème vu que dans le passé, le coronavirus, ça n'existait pas. Mais dans le futur ou dans le présent, vu ce qu'ils ont construit, ça peut, enfin, moi, de loin, ça peut me paraître un petit peu bizarre et peut-être que c'est une série où je préférerais qu'ils fassent un petit peu, qu'ils passent à côté et qu'ils restent un peu dans cette bulle temporelle.
Ça m'intrigue pour des séries comme This Is Us de voir comment ça va être intégré, mais sans être totalement impatient non plus. Enfin, personnellement, s'il l'abordait pas, ça m'aurait pas dérangé. Parce que c'est pas. Enfin, après, voilà. Je suis pas
Ouais.
partisane que toutes les séries l'abordent, qu'on retrouve. C'est de la fiction, donc enfin, on n'est pas obligé de mettre de la réalité non plus partout dans de la fiction.
Futur dans This Is Us, il est vraiment lointain, quoi. C'est pas à 6 mois près, donc ça va. On laisse largement le temps d'intégrer et de faire comme si.
Ouais, mais ne pas en parler, ça ferait un peu de science-fiction aussi, quoi. C'est-à-dire que ne pas en parler, ça ferait tellement bizarre pour beaucoup de séries.
Oui.
Parce que nos habitudes ont changé aussi radicalement, et c'est devenu quand même quelque chose qu'on maintenant que très très commun de voir des gens avec des masques. Donc.
Avec un masque.
Mais oui, voilà. Enfin, moi, c'est vraiment le. De loin, c'est vraiment le truc où je me posais la question, c'est de me dire, Est-ce qu'ils prennent le parti, justement, comme tu disais, de la science-fiction, où le futur qu'on voulait, c'est celui-là, mais ce n'est pas forcément celui qu'on aura. Mais là, il y a quand même un événement super imprévisible qui vient de se passer et qui aura des répercussions sur des années et des années. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, pas forcément dans le présent, mais qu'est-ce qu'on en fait dans le futur ?
Tout ce qui est soap, ils n'en ont pas parlé, je crois, parce qu'ils jouent avec des mannequins, donc je pense que là, ils se sont dit...
Tu sais que je revois souvent l'extrait que tu as publié, où c'est qu'il embrasse le mannequin, le mec, ça me fait mourir de rire à chaque fois quand j'ai un coup de blues, c'est vraiment très drôle.
Le souci, c'est que là, le coronavirus est arrivé en plein milieu d'une saison, finalement, d'une saison sérielle, donc forcément, tu vas avoir des contretemps, et après, les Américains n'en sont pas assez prêts pour intégrer un plot twist comme ça. Là, après, comment ils vont l'intégrer ? Pour This Is Us, je te dis, vu la forme de la série, ce qu'on nous montre, etc., qui est un truc, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, hein, très réaliste, entre guillemets, on ne peut pas se passer de ça, et c'est pour ça qu'ils ont pris les devants, à mon avis, en annonçant qu'ils allaient mettre le corona. Parce que, après, comme disait Stéphane, la timeline dans le futur est quand même très lointaine. Il y a le temps soit d'intégrer le coronavirus, et on dit, puisque là, de toute façon, c'est un peu de la science-fiction, parce qu'on imagine un futur un peu lointain, soit on dit que le coronavirus a été éradiqué, on a un vaccin, etc., soit on dit que le coronavirus n'existe toujours pas, et alors, dans ce cas, il faut l'intégrer, mais en effet, tu l'intègres à retardement, parce que cette timeline du futur, elle existe, je n'ai pas les trois têtes, mais elle existe depuis quoi ? Fin de la saison 2, fin de la saison 3 ? Ça restera quand même à contre-temps, forcément, c'est sûr. Et après, quand tu as la timeline dans le présent,
c'est pas non plus comme si on y avait passé énormément de temps dans ce futur là quoi.
Oui, complètement. Il y a c'est plus pratique, c'est plus
on a dû voir 5 minutes du futur, hein, donc oui. Oui, ça a l'air voilà quoi.
C'est pour ça.
Dans un hôpital en plus. Alors,
en plus, ouais, dans une structure.
Non, c'était pas un hôpital,
c'est dans une
maison de Kevin en plus.
Mais oui. Bon, en effet, comme dit Stéphane, on n'a pas vu grand-chose. C'est surtout dans le présent où il va falloir l'intégrer à retardement, alors que jusque-là, c'était très linéaire, ça suivait vraiment. Enfin, on pouvait dire que...
C'est comme dans ma vie, hein. Jusqu'à présent, il n'était pas le coronavirus. Hein.
Pour boucler la phase coronavirus et ouvrir sur d'autres sujets d'actualité, les séries françaises réagissent, enfin, surtout les feuilletons quotidiens, réagissent quand même assez follement à l'actualité. Elodie, niveau coronavirus, quel feuilleton on a parlé ?
Alors, Plus belle la vie, drôle de coïncidence, puisqu'ils avaient écrit justement une intrigue à ce sujet. Mais alors, l'intrigue a été écrite depuis, je crois, septembre dernier. Et il s'est avéré que c'était les épisodes qui ont été diffusés en février-mars, où justement, il y avait un virus qui, d'ailleurs, c'était le coronavirus, hein, ils l'ont vraiment dit, le Covid-19. Au sein de l'hôpital de la série, et voilà, alors, eux, ils ont juste confiné l'hôpital, il n'y a pas eu tout le confinement, etc., mais voilà, bon, il y a eu ce virus qui a été là, juste quand nous, c'était aussi le début, voilà, après l'intrigue s'est très vite terminée dessus, et ils n'ont pas continué, mais bon, ils ont été un peu précurseurs du truc.
C'est eux qui ont déclenché le coronavirus pour coller à l'actualité, enfin, pour que l'actualité colle à la série.
Voilà, et eux, alors, ils ont choisi de... Alors, ils ont diffusé tout ce qu'ils avaient tourné pendant le confinement. Enfin, ils n'ont pas arrêté la diffusion, contrairement à Demain nous appartient ou Ainsi grand soleil, qui tout de suite a arrêté sa diffusion. Eux, ils ont continué à diffuser tout ce qu'ils avaient tourné et ont fait une pause après jusqu'à ce que le tournage reprenne. Et quand le tournage a repris, ils ont commencé à rediffuser des épisodes fin juin, si je ne me trompe pas, et n'ont pas du tout abordé le sujet. Ils ont complètement fait comme si ça n'existait pas. Alors la productrice avait dit que justement ils voulaient quelque chose que les gens passent un été un peu joyeux, divertissant, qu'ils ne pensent pas au virus.
Ouais.
Donc voilà, donc ils ont pris ce parti pris et depuis la rentrée, ils l'évoquent, on va dire. Mais c'est très léger. Ils disent, je ne sais pas, une infirmière qui va dire que c'était galère pendant le confinement, de soigner les patients, qu'au bar du Mistral, comme ils ont fermé pendant le confinement, c'est un peu la crise, qu'ils ont des problèmes d'argent. Voilà, on entend plus ce genre de choses, quelques références par-ci, par-là, mais pas vraiment de... Il n'y a rien eu de... en rapport avec ça dans la série.
Ouais. Et du côté... Oui.
Oui, j'avais parlé de Demain nous appartient. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est fait, mais je sais que quand ils ont repris leur diffusion, ils ont diffusé les épisodes qu'ils avaient déjà tournés. Et puis, ils ont continué les intrigues comme si de rien n'était, en juste évoquant de loin un peu le coronavirus, mais sans l'intégrer aux intrigues.
D'accord.
Ceux qui ont fait, voilà, qui ont fait vraiment quelque chose, c'était Un si grand soleil. Qui, comme Demain nous appartient, avaient arrêté la diffusion des épisodes qu'ils avaient tournés. Quand ils ont repris début juin, ils ont donc diffusé les épisodes tournés, mais ils ont commencé à mettre un J-55 avant confinement.
Ouais.
Donc on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire, s'ils allaient vraiment confiner ou pas. Et alors, il a fallu attendre, je ne sais plus exactement la date, mais mi-août avant qu'on arrive à J-0. Mais déjà, plusieurs épisodes avant, ils nous parlaient du virus comme en début mars, avant le confinement, c'est-à-dire ils parlaient de l'Italie qui était confinée. On entendait des spots à la radio qui parlaient du virus qui se propageait, qui venait de Chine, qui avait de plus en plus de cas. Enfin, voilà, des gens qui utilisaient du gel hydroalcoolique. Ils
Ouais.
préparaient un petit peu le truc jusqu'à arriver à J0 confinement. L'épisode se termine avec le discours d'Emmanuel Macron qui justement annonce le confinement et
Mais aucun épisode fait sur Zoom, sur
alors
Skype ou des choses comme
l'épisode
ça, quoi.
suivant, ils ont fait une sorte de saut dans le temps, ils ont fait un générique très long où ils nous montrent les mois de confinement justement, où on voit les personnages de la série menaient leur vie pendant le confinement, c'est-à-dire on voit ceux qui travaillaient à l'hôpital qui étaient surchargés avec les patients, les bars et restaurants qui ferment, certains personnages qui sortent avec le masque, voilà.
Ouais. D'accord.
Ils l'ont présenté comme ça, donc ça c'était plutôt rapide. Et puis donc depuis, ils évoquent le sujet. Sans que ça soit une véritable intrigue. C'est dommage, limite, on aurait bien aimé au moins un ou deux épisodes
Ouais,
pendant
bah
le
oui, hein.
confinement, vu qu'ils avaient beaucoup, ils ont teasé beaucoup à ce sujet, donc ça aurait été chouette de pouvoir voir un truc. Donc il y a un petit côté déception, même si voilà, ils ont fait quand même quelque chose d'intéressant. Et puis les intrigues de cet été, voilà, étaient quand même
Ouais, c'est ça, ouais.
intéressantes avant le confinement même. Mais ils n'ont pas su gérer à 100% le truc. C'est-à-dire que, bon, on aurait aimé qu'ils aillent au bout des choses. Alors voilà, maintenant ils évoquent l'après. Donc, c'est-à-dire, pareil, un peu, il y a la crise. Voilà, ceux qui sont contents de retourner bosser. Il y a un avocat qui parle de oui, vous allez aller au prud'homme parce qu'on vous a viré alors que vous étiez en chômage partiel. Voilà, ce genre de choses. Il y en a un qui s'est fait
Ouais.
dépister pour le Covid parce
Ouais.
qu'il était
Il y a
malade.
déjà ce barrière ou pas?
Alors,
Pareil, pas de
non.
masque, pas de rien
Il n'y
du
a pas
tout
de masque.
de
Il n'y a
visible,
pas de
quoi.
masque en soi, sauf, alors par exemple, dans Un si grand soleil, il y a eu une scène dans un tram où ils avaient tous le masque dans le tram et ils l'enlèvent en sortant. Sachant que, bon, à Montpellier, ils n'ont pas le masque obligatoire tout le temps. Mais sinon, non, même ce qui est bizarre, c'est quand ils sont dans le bar et tout, ils n'ont pas de masque. Voilà, c'est pas non plus totalement. Ils essayent de mettre des petites touches par-ci, par-là. Donc oui, c'est le côté un peu dommage de pas être allé au bout.
Et les scènes de sexe, y a plus personne qui s'embrasse physiquement avec de la langue.
Je pourrais pas dire s'il y en a moins qu'avant. J'ai pas l'impression. Ce qui était bizarre, c'est la reprise du tournage de Plus belle la vie, ça se voyait, ils étaient vraiment distancés des gens qui se parlaient. Enfin, par exemple, au bar, ils étaient assis sur deux tables différentes ou sur deux bancs différents dans un parc. Enfin, voilà, c'était pas, ça faisait très, très bizarre au début. Je trouve qu'ils le font beaucoup moins maintenant. Il y a moins de distanciation.
Et là, avec la fermeture des bars à Marseille, est-ce que Plus belle la vie va pas non, justement bouleverser un peu plus au niveau de l'écriture, peut-être?
Bah, je sais pas, mais ça serait bien. Ça serait chouette qu'ils fassent un truc comme ça, justement, vu que tout a refermé là. Enfin, tout a refermé.
Mais là, ils peuvent pas être réactifs, on va dire, parce que quand ils sont réactifs, c'est une petite scène en fin d'épisode pour en référence à un événement. Mais là, ça serait bouleverser toute l'écriture et vu qu'ils ont pas mal d'avance, ils peuvent pas non plus faire autrement, quoi.
Oui, je pense que là, ça sera un peu compliqué. Ou alors, ils vont le faire dans 3 semaines. Mais dans 3 semaines, ça se trouve, ça sera réouvert. On ne sait pas. Mais ouais, je doute qu'il l'intègre, sauf si ça devient peut-être plus sur le long terme et qu'on dit que ça ne réouvre pas tout de suite. Mais surtout qu'il y a des intrigues principales qui se passent au bar du Mistral, quoi. Donc là, il est censé fermer, c'est le cas.
Ça dépend en fait le projet que tu veux avoir avec la série. Ça, enfin, ce que tu disais, Stéphane, par rapport à est-ce que le côté anxiogène dû à t'as vécu toute la journée comme ça, et en plus de ça, dans ton feuilleton, on voit aussi des gens masqués, distanciation sociale, etc. Ça dépend du rôle que tu veux donner à la série et au cinéma en particulier. Soit que c'est un total échappatoire, et dans ce cas, on se dit, bon, bah. Il n'y a plus. Enfin, ma série s'affranchit absolument de l'actualité, de la temporalité, etc. Et on fait sans. Soit on se dit, bon, bah, ma série, elle est très moderne, entre guillemets, réaliste. Et dans ce cas, on doit coller, à mon sens, à l'actualité qui est là. Et puis surtout, s'ils ont engagé les démarches pour coller à ça en disant, bon, bah, voilà, maintenant, distanciation,
Ouais.
gestes barrières, masques, etc. Bah, il va falloir vivre avec ça, et si le cinéma se colle à cette actualité-là, bah fondamentalement, pour moi, ça paraît un peu normal. Ça a toujours été un miroir déformant forcément de la réalité, et dans ce cas, bah, t'es un peu obligé de coller à ça, et puis ça fait partie du truc aussi. Enfin,
Oui, mais c'est pas pour autant qu'on s'est pas branché pour regarder les infos et de voir le décompte de morts tous les soirs.
voilà,
Donc à ce moment donné là,
c'est ça.
ça aurait été quand même aussi passionnant de regarder comment les scénaristes et même la vie fictionnelle allaient intégrer tout ce bordel, quoi. Et
Enfin, très clairement, il y a par exemple cette semaine, j'ai vu l'épisode de Planqueur où,
t'es fou, toi, mais tu te fais du mal pour plaisir, quoi.
non, mais soyons honnêtes, il était midi et demi, je venais de terminer le travail, j'étais en pause, j'étais en train de manger ma petite quiche. Mais voilà, tu veux te détendre, tu regardes ça, mais en soi, même si Planqueur n'est pas une bonne série, soyons honnêtes, ils ont su capter en 45 minutes, je crois. Donc, un format différent que ce qu'ils font d'habitude. Ils ont su capter ce qu'était le confinement, et ils ont essayé de montrer les personnes lambda, comment elles vivaient le confinement. Très stéréotypé, certes, voilà, ils ont essayé de le montrer. Et ça fonctionne en soi, ça fonctionne. Et on a envie de voir
Il y
ça.
a cette chance de télé-réalité pour voir des gens enfermés faire des conneries, hein, tu vois.
Enfin, on a quand même échappé aux télé-réalités de confinement. Et ça, je pense que
Arrêtez
c'est
ce putain de
vrai.
confinement, il a fini le tournage de Love Island France et j'étais dégoûté.
Oh putain, ouais. Oh
Oui.
ouais.
Et justement, on parlait de la réactivité des séries françaises, mais pour Plus belle la vie, le plus souvent, enfin tu me dis si je me trompe, mais c'est souvent juste des petits ajouts de scènes. Parce que évidemment, les épisodes sont tournés en avance, mais genre bah, la mort de quelqu'un ou la victoire en Coupe du Monde, des choses comme ça, c'est juste des petits bonus qui apportent rien de plus aux intrigues, mais c'est juste pour faire plaisir aux gens, quoi. Je pense que c'est ça.
Oui, il faut souvent ce genre d'événement, même généralement pour la Coupe du Monde, il y a toujours quelque chose qui est fait. Ça arrivait de faire des concours de baby-foot ou des pronostics, enfin ce genre de trucs. Il y a des défis un peu marrants. Il y a souvent pour les
Ouais, et
élections.
la mort de Johnny, non?
Ouais, si la mort de Johnny,
Ah,
écoutez,
c'est vrai.
il y a des grosses morts, alors c'est souvent des trucs un petit peu ridicules, on va pas se mentir, mais il y a souvent des petits clins d'œil ou des petites choses, ouais.
Mais toi qui parlais du côté anxiogène, est-ce que pour le coup, est-ce que de voir ça tous les soirs après avoir vécu sa journée avec son masque sur la gueule et à se dire, oh, tiens, peut-être que.
Surtout que c'est totalement hypocrite parce que, enfin, comme disait Stéphane il y a quelques minutes, les Français ont passé leur été à parler du coronavirus. Je prends mon exemple très personnel, mais quand tu vois tes potes, tu parles de plein d'autres choses, mais tu en reviens toujours au coronavirus. C'est le point Goodwin de 2020, hein, clairement. Et en fait, quand tu regardes la télé, tu vas automatiquement zapper sur les infos ou rechercher l'info pour savoir ce qui s'est passé par rapport à ça. Et quand tu regardes une fiction, comme disait Léo tout à l'heure, tout te ramène à ça. Tu vois des personnages qui s'embrassent, tu vois des personnages qui se serrent la main, tu y penses. Donc, en soi, enfin, pour moi, c'est un peu hypocrite de dire non, on va essayer de faire une petite bulle, mais on est quand même une série quotidienne, on est quand même une série qui parle de l'actualité. Bah, donc, dans ce cas-là, tu t'y adresses, t'as pas le choix. Enfin,
Voilà,
c'est obligatoire.
tu peux pas faire un entre-deux, surtout si tu as commencé le truc et qu'ensuite tu t'arrêtes. Soit tu assumes de faire quelque chose de fondamentalement fictionnel dans une espèce de réalité parallèle où il n'y a pas de coronavirus, et dans ce cas, tu le dis, tu l'assumes et tu fais de la communication autour de ça, parce que sinon les gens vont pas le comprendre. soit tu te dis, bah, on est un feuilleton qui est réaliste, moderne, qui colle à l'actualité, qui colle à la réalité des gens, etc. Et on se rapproche le plus possible de, bah, voilà, du quotidien des gens. Et dans ce cas, tu intègres le coronavirus. Mais l'épidémie, on a été confiné le 18 mars 2020. Ça fait 6 mois, là. Ça fait quasiment 6 mois que le confinement a été déclaré. On a vécu le confinement pendant 2 mois. Et maintenant, on vit avec ça. On a une résurgence, on a une deuxième vague. Alors oui, on en parle tout le temps, mais ça fait, voilà, maintenant ça fait partie de nos vies. Et je pense que, comme l'a rappelé Maxime, on ne doit pas être les seuls à se dire, en voyant une série, dis donc, il se serre la main, dis donc, les gestes barrières, les masques, ils sont où? Voilà, ça fait partie de notre vie maintenant. Donc, ce ne sera pas la faute du cinéma si c'est anxiogène, c'est juste qu'ils ont un projet et ils s'y collent. Et voilà, c'est tout. Il sera intéressant de voir comment Marvel va faire pour sa phase suivante au cinéma, pour, en disant, est-ce qu'on intègre le coronavirus ou pas, ou alors est-ce qu'on dit les comics sont, les adaptations de comics sont complètement
non, mais si, enfin, il y a quand même quelque chose de enfin, pas d'hypocrite, mais si on veut s'échapper de la réalité, il y a quand même 120 ans de cinéma avant le coronavirus, donc exactement. On peut toujours très bien regarder un film où ça n'existe pas. Aujourd'hui, on vit avec ça, donc forcément, la société doit le représenter. Si tu choisis de ne pas le faire, tu choisis de pas le faire, très bien, on ne va pas t'en vouloir. Mais
c'est doublement hypocrite, mais c'est pour compléter ce que tu dis, ce serait double hypocrite de ne pas parler de coronavirus, dans la mesure où la plupart des productions aujourd'hui, que ce soit à la télé ou au cinéma, sont là pour dézinguer Donald Trump. Voilà. Dans toutes les séries, tu as des références à la politique de Trump qui sont là pour les flinguer, etc. Donc voilà, tu vas pas dézinguer Trump, et en même temps, voilà, surtout que là, tu as quand même une porte d'entrée fabuleuse pour dézinguer Trump, c'est sur sa gestion du coronavirus. Le cinéma a toujours voulu coller au monde actuel et a toujours voulu le représenter, même sous une forme fictionnelle, ce qui se passe dans la réalité. Donc le coronavirus va pas faire exception. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est quelque chose qui a touché la population mondiale et qui la touchera pendant des années. Ces répercussions vont s'étendre sur des années.
Si on bâche Trump, on a la série par excellence en ce moment qui est The Good Fight. J'en voudrais beaucoup à The Good Fight de ne pas taper sur Trump et donc sur la politique actuelle, notamment le coronavirus, mais j'en voudrais beaucoup moins pour, à partir des mêmes créateurs, à Evil, qui est un peu dans une bulle temporelle où elle ne parle pas de politique immédiate, de pas en parler. Enfin, pour moi, elle a son univers, elle n'a pas besoin de parler du coronavirus. Par contre, à un moment où tu as mis le pied dans l'actualité, en général, bah, tu es obligé de t'adresser à l'actualité qui se passe en ce moment. Et c'est le cas de The Good Fight.
Donc, ouvrons sur l'autre, sur tout ce qu'il y a eu en actualité, parce que évidemment, le monde a avancé, enfin, le monde est ce qu'il est avec tout ce qui s'est passé. J'ai une question pour ça veut rien dire, mais Léo, doit-on intégrer l'actualité dans les séries télé? On parle par exemple du mouvement Black Lives Matter qui a fait évoluer l'écriture de la prochaine saison de Brooklyn Nine-Nine.
Black Lives Matter en plus, hein, c'est les violences policières, les protestations policières. Oui.
Mais l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement.
Black Lives Matter existe depuis déjà quelques années. Oui. Il y a d'autres séries que l'on traitait avant. Hein.
Oui, tout à fait. Bah, ne serait-ce que dans The Wire, par exemple. Hein. C'est au cœur de saison de The Wire depuis des lustres. Non, simplement, oui, bien sûr qu'il faut intégrer l'actualité. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait là, c'est-à-dire le cinéma a toujours cinéma, et que ce soit au cinéma, enfin sur grand écran et sur petit écran, a toujours intégré ça d'une manière ou d'une autre et a toujours fait des allusions plus ou moins détournées à ce qui se passe là-dedans. Le principal événement étant le 11 septembre, hein, qui a été le truc le plus, que ce soit abordé frontalement de manière documentaire, par exemple dans la mini-série The Looming Tower, là, avec Jeff Daniels, ou dans d'autres séries, que ça a pu être Designated Survivor, par exemple. Ça, c'est un espèce de miroir du 11 aussi. Ça a toujours été intégré parce que les grands événements qui se passent touchent aux valeurs. Les Américains sont très attachés à leurs valeurs et à ce qui a touché. Si le 11 septembre est un truc si fort aux États-Unis et a été si intégré, c'est parce qu'on a touché en plein cœur du modèle américain, c'est-à-dire les deux grandes tours immenses, l'espèce d'impérialisme américain a tout touché en plein cœur. C'est que bah, tu le vois dans plusieurs séries d'une manière ou d'une autre. Et Et parce que tu peux pas, et puis tout simplement, tu peux pas continuer à faire avancer tes idées en série sans l'actualité, parce que cette actualité inspire les scénarios, inspire les manières de voir les choses, les manières d'écrire, etc. Chaque scénariste, bah, on parlait de Thomas Lilti, par exemple, la plupart de toutes ses productions sont inspirées de son quotidien de médecin généraliste. Il est certain que maintenant, Thomas Lilti ne fera plus de cinéma comme il le faisait avant, parce que entre-temps, il a vécu le Covid et il l'a vécu frontalement au sein d'un service hospitalier de Saint-Denis. Voilà. Oui, il faut après les seuls qui, si tu veux pas l'intégrer, dans ce cas, tu fais du 100% fictionnel, tu fais des films comme Warcraft, tu fais DC comme, enfin, et voilà, Warcraft, c'est vraiment genre t'es pas du tout sur Terre, etc. Mais même Marvel, même DC, par exemple. Et que ce soit au cinéma ou en série, hein, le petit écran, bah, y a quand même un ancrage réel, entre guillemets, avec des gens qui sont dans des vies de tous les jours, etc., pour être dévié sur du comics, du super-héroïque, etc. Moi, ne pas voir le coronavirus, ça me paraît très bizarre, pour toutes les raisons qu'on évoquait aussi auparavant, c'est-à-dire que bah, maintenant, on est habitué aux gestes barrières, dans situation de masque, etc.
Je crois que West Wing avait réagi super rapidement sur le 11 septembre.
Oui. Ils avaient réagi 15 jours après, il me semble que c'était... Oui, 15 jours après, avec l'épisode Isaac et Ismaël, où...
Enfin, Aaron Sorkin a écrit un épisode spécial qu'ils ont fait en introduction de la saison 3.
Oui, 3.
Ouais. Et c'est genre un épisode en huis clos, non ? Enfin, un truc...
C'est ça. En fait, c'est toute l'équipe de The West Wing qui recherche de la nourriture, il me semble. Et ils essayent... Enfin, en fait, ils se retrouvent confiné entre guillemets suite à une alerte avec une équipe de lycéens, enfin une classe de lycéens, pas une équipe, et ils essayent de leur expliquer la différence entre l'islam et le terrorisme, parce que pour pas faire l'amalgame. Et c'est là où moi je trouve que en fait il y a trois séries différentes qui se sont passées à partir de ce moment là c'est que tu as la série qui va essayer de refléter l'actualité, donc du type 24. Donc, très clairement, c'est celle qui me vient.
Oui, non, mais clairement, en plus. Hein.
Voilà, 24. T'as des séries du type The West Wing où ils vont essayer de faire de la pédagogie à partir de l'actualité. Donc, à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et à dire, il ne faut pas faire l'amalgame entre musulmans et terrorisme. Faut essayer d'expliquer aux gens ce qui s'est passé derrière. Et t'as celles qui vont avoir une réaction totalement opposée, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est des séries qui vont totalement occulter l'événement et qui vont aller carrément vers, de la SF, qui font se dire cet événement n'est pas arrivé, ou alors on va en parler brièvement, mais à côté de ça, on occulte totalement la chose. Et c'est là où je trouve que c'est aussi super intéressant le format série, parce que en soi, tu fais ce que tu veux. C'est juste que c'est une question de positionnement. Une série, par exemple, comme Homeland, elle va prendre totalement le parti de faire une affaire par rapport à l'actualité. Je me souviens d'une saison, je ne sais plus laquelle c'est, je ne sais même pas pourquoi j'ai été jusqu'au bout, qui a fait toute une affaire autour de Poutine, comme House of Cards, d'ailleurs. De l'autre côté, tu vas avoir une autre série comme... Olivia Benson. New York Unité Spéciale, où elle, ça va vraiment être des micro-événements qui vont adresser, par exemple,
la DSK.
L'affaire DSK, très clairement. Enfin, c'est là où moi je trouve que le format série, c'est quand même le mieux pour parler en fiction, pour parler de l'actualité, c'est parce que tu peux rebondir super vite. Avec plus ou moins de pertinence. Par contre, après ça, moi. Homeland, je ne la porte pas dans mon cœur. Par contre, New York Unité Spéciale, à chaque fois qu'elle parle d'actualité, elle est ultra pertinente.
Alors, le sujet, pourrait durer des heures, mais juste pour peut-être terminer, les séries françaises, on parlait un peu du mouvement féministe ou pas du tout ?
Non, mais on a clairement un problème pour aborder les sujets d'actualité dans les séries françaises. Le seul truc, les attentats du 15 novembre, du 13 novembre déjà, je ne sais pas pourquoi le 15, mais du 13 novembre, on est 5 ans après, il n'y a toujours rien qui a été fait dessus, à part un téléfilm qui s'est fait cracher dessus. Alors, je ne l'ai pas vu, mais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais on n'arrive même pas à aborder forcément beaucoup ce sujet-là Même si c'est juste le mentionner une fois de temps en temps dans une série qui parle de terrorisme, qui parle d'autre chose, qui parle de spectacle, etc., ça ne va pas nous aider pour aborder les sujets d'actualité qui sont nécessaires parce qu'ils font aussi avancer le débat, quoi.
Par contre, il y a eu un très bon film, on parle de série, mais là, il y a eu un très bon film sur les attentats du 13 novembre. C'est Amanda de Mince. Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est avec Vincent Lacoste de Michael Hirst, celui qui a fait un sentiment de l'été, et qui aborde très bien ce sujet. Mais c'est vrai qu'au niveau série française, que ce soit le féminisme ou le terrorisme, là on fait un peu le mélange. Mais moi j'ai l'impression aussi qu'on est très très en retard. Alors que le féminisme aux États-Unis, toutes les séries en parlent. Enfin. C'est limite.
Attendons Camping Paradis ou Joséphine ou des trucs comme
ouais,
ça.
Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut attendre au moins 20 ans pour avoir un discours intelligent sur un mouvement.
Il y aura peut-être le Bureau des légendes qui a retraité un peu les conséquences du terrorisme du 11 septembre sur la DGSE française.
Et juste, tu parlais de pédagogie, Maxime, il y a aussi The Newsroom qui a fait un truc notamment, il y a un épisode de The Newsroom qui se termine par l'allocution de Barack Obama qui dit on a tué Ben Laden. Et The Newsroom est sorti, j'ai vérifié là, fin 2012, quand Ben Laden a été tué fin 2011. Donc, l'actualité peut être carrément limite un décheur, parce qu'on peut imaginer que Sorkin a écrit juste après, ou alors qu'il écrivait pendant, et que ça l'a incité à écrire sur ça aussi.
On a eu droit quand même à Rescue Me, la série de Dennis Leary sur les pompiers de New York, qui gère les traumas des pompiers juste après les attentats du 11 septembre, et qui est l'une des représentantes les plus dingues de ces événements-là. Parce qu'elle raconte et la façon dont elle le gère après sur bon après il y a beaucoup de merde dans quelques saisons, mais voilà, sur ce que ça raconte et sur le surtout la gestion du trauma, quoi, et qui est vraiment très...
Et Million Little Things aussi, qu'on a parlé dans un twist
de ah oui c'est vrai oui
du 11 septembre, ouais.
et après il y a aussi ce qu'on entend derrière actualité, parce que par exemple tu parlais, Tom, du féminisme ou même de Black Lives Matter, c'est pas des micro événements, oui. C'est pas un événement, en fait c'est des mouvements. Et on le voit bien dans les séries, ne serait-ce que pour le féminisme, ça imprègne quand même pas mal de séries aujourd'hui. Enfin, je pense cette année à Mrs. America, ou même de manière dystopique, The Handmaid's Tale.
Oui, mais t'as pas des personnages qui d'un coup deviennent pro-féminisme. Enfin, tu vois, voilà. Y a pas des changements radicaux qui pourront...
Mais j'ai l'impression en fait que pour vraiment s'adresser en profondeur à ces sujets, il faut toujours le biais historique. Du style, ne serait-ce que cette année et l'année dernière, sur les violences policières et sur les violences faites aux Noirs, Lovecraft Country et Watchmen. Il faut toujours en fait ce recul pour pouvoir construire un propos plus intelligent que si on le faisait directement.
Mais on verra ce que va nous proposer Brooklyn Nine-Nine pour sa nouvelle saison, mais
bon courage.
Ça va être compliqué de gérer ça pour une comédie.
Oh oui, complètement.
Ouais.
Alors pour conclure, j'ai une dernière question. Est-ce que la série la plus réaliste, finalement, c'était pas Years and Years?
Oh putain.
Clairement.
Oui. la plus proche de l'actu.
Complètement. Mais Years and Years est irréfiante, parce que ce qu'elle montre, et ça tombe bien, je suis plongé dedans pile en ce moment, c'est notamment une grave crise économique avec une déréliction totale des personnages qui sont notamment la fille de Rory Kinnear là, qui veut devenir transhumaine, quoi. Years and Years, c'est un petit peu genre les conséquences hyper négatives et hyper cyniques de ce que serait la crise du coronavirus ou d'autres, et le pire c'est que tu te demandes s'ils n'ont pas carrément raison finalement, s'ils n'ont pas prévu un futur complètement dithyrambique. En tout cas, ça
parle de virus, mais en fait ça l'explique pas, hein, je crois, d'après mes souvenirs.
Non,
ouais.
Mais il n'a pas besoin, parce qu'en fait, c'est là tout le génie de Russell T. Davis. Hein. Il te balance des trucs, tu ne sais pas si c'est inspiré de plus ou moins de trucs, et en fait, ça devient prémonitoire. Bon, c'est ça qui est flippant, quoi.
Ne serait-ce que la crise des migrants.
Oui.
La crise des migrants, c'est pour moi la meilleure série qui, pourtant, elle le traite qu'en un épisode et après, c'est un mini fil rouge. Mais c'est la meilleure série qui traite de la crise des migrants que j'ai vue. Enfin,
c'est vrai que cette scène du bateau, là, c'est folle.
Ah, mais voilà. Mais il y a eu une série Arte, il me semble, qui traitait de ça.
La avec Land.
Non, avec Sylvie Testu. Alors, je ne sais plus du tout laquelle c'est, parce que j'ai arrêté au bout de 10 minutes tellement c'était...
Ah oui, Sylvie Testu, oui.
mais voilà, mais enfin, j'ai envie de te dire, quand on traite les choses de manière frontale, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, on va dans le mur. Alors que quand on prend le biais vraiment de la fiction, là, on peut dire des choses intéressantes. Et Years and Years est clairement...
C'était Eden, la série de...
Ah, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, voilà, t'as Years and Years qui arrive derrière et c'est un gros fuck à tout le reste, quoi.
Donc, de toute façon, il y aura beaucoup de suites à toute cette histoire. On fera une deuxième partie à ce débat quand on verra... toutes les séries qui vont revenir. Vous serez les bienvenus, évidemment. Merci Léo.
Avec plaisir.
Merci Elodie.
Et ben merci pour l'invitation.
Merci Stéphane, quand même.
Avec plaisir. Et tout en cours à chaque fois, mais avec plaisir.
Mais oui. Et merci Maxime.
Mais de rien.
On retrouve ça à Causeur sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt et bonne journée. Bon courage à vous.